France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de Dominique Versini, adjointe d'Anne Hidalgo, chargée des solidarités, de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance. Autant dire que la feuille de route est vaste pour une seule et même personne, mais elle semble avoir été taillée sur mesure pour celle qui fut cofondatrice et directrice du SAMU social, mais également défenseur des enfants et secrétaire d'État à la lutte contre la précarité et l'exclusion dans les gouvernements Raffarin. Aujourd'hui, Dominique Versini est donc adjointe d'une maire de gauche. On reviendra d'ailleurs sur ce parcours politique atypique et sur son parcours personnel tout court. Elle qui est née et a grandi au Maroc dans une famille corse. Elle qui a décidé un jour de renoncer à une brillante carrière dans l'industrie pharmaceutique pour s'occuper des plus pauvres. Elle nous dira pourquoi. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Medevielle, l'actualité de la semaine comme tous les vendredis et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, une expérience qui va forcément intéresser notre invité, car ou quand des étudiants décident de partager leur logement avec des réfugiés en occupant des bâtiments voués à la démolition, tout le monde y gagne. À propos de gagne, à 19h20 au téléphone sonne, question sur la privatisation de la Française des Jeux. La vente des actions débutera le 7 novembre. À qui s'adresse cette opération? Quelles conséquences pour l'entreprise, pour le budget de l'État et pour les joueurs? Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Dominique Versini.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous, je l'ai dit, vous êtes donc maire adjointe de Paris depuis 2014, après avoir été donc directrice et cofondatrice du SAMU social, mais également secrétaire d'État à la lutte contre l'exclusion, défenseur des enfants. Vous êtes chargée des solidarités, de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés, de la protection de l'enfance. Alors je précise quand même, pour commencer cette émission, qu'on ne parlera pas que de Paris ce soir.
Oui.
Je dis ça parce que nos auditeurs qui ne sont pas à Paris, parfois ça les hérisse quand on parle de la capitale, qui se rassurent d'ailleurs, pas mal de problématiques sont des problématiques générales. Si vous le voulez bien, Dominique Versini, on va commencer par ce qui nous interpelle tous, par ce qui est peut-être le plus dérangeant dans une ville comme Paris, une ville riche, le nombre de personnes à la rue. Est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui sont à la rue actuellement à Paris?
Oui, on sait à peu près combien il y a de personnes à la rue. On peut dire déjà qu'il y a 23 000 places d'hébergement pour sans-abri qui sont remplies chaque soir. Donc ça fait déjà 23 000. Et deux années de suite, nous faisons une fois par an, et nous le ferons là le 30 janvier 2020, une nuit de la solidarité qui consiste
à répertorier
avec 350 équipes. On a découpé Paris en 350 secteurs. Il y a un professionnel et des bénévoles parisiens. Qui ont chacun un parcours
secteur,
à faire et qui doivent compter les personnes, s'assurer évidemment qu'il n'y a pas un problème grave pour l'une d'entre elles. Et la première année, il y avait 3600 personnes. La deuxième année, 3680. Enfin bref, il y a autour de 3600 personnes à la rue. Plus 23 000 places.
En tout cas, concernant les personnes à la rue, pardonnez-moi, Dominique Versini, Éric Pliez, qui est l'actuel président du SAMU social de Paris, lui, il dit qu'il y en a le double, il est deux fois plus que 3600.
Alors, je vous dis que là, je ne sais pas, il se base, lui, sur les appels qui arrivent au 115, qui sont effectivement extrêmement importants. Alors, le 115, c'est le numéro de téléphone gratuit pour appeler lorsqu'on est sans abri ou pour signaler une personne sans abri. En ce moment, il est complètement saturé parce que des gens appellent en nombre très important. Ils appellent plusieurs fois de suite et il ne répond qu'à 10% de ces appels. Et chaque soir, le SAMU social laisse 1500 personnes en ce moment en famille, en situation de rue. Ça veut dire 1500 femmes, familles avec à peu près 700 enfants qui dorment aux urgences des hôpitaux, qui dorment dans différents endroits. En fait, c'est la question du sans-abrisme, c'est une question vraiment de grande métropole. On le voit partout dans le monde. Et quand j'avais été à New York, justement, j'avais découvert la maison la méthode du street count, du comptage de rue, parce que ça permet de savoir combien de personnes il y a. Aujourd'hui, je vous dirais fin janvier combien il y a de personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 3600 personnes. Et qu'il y a aussi un phénomène qui amplifie celui du sans-abrisme. Quand on a créé le SAMU social de Paris avec Xavier Manuli, c'était surtout des clochards. C'était en 1993, 25 ans en arrière. Là, depuis 2015, il y a eu un afflux énorme de réfugiés, d'où des campements très importants. dans le nord de Paris, on avait créé un centre d'accueil humanitaire.
Alors, on va y revenir.
Voilà.
Alors, à propos justement de ces migrants, Dominique Versigny, après on reviendra sur le cas du SAMU social, je voudrais quand même qu'on réentende ce que disait Emmanuel Macron en juillet 2017. C'était à propos des migrants, justement, et vous ne voulez plus voir personne à la rue.
Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdu. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Partout des hébergements d'urgence. Je ne veux plus de femmes et d'hommes dans les rues.
2 ans et demi pratiquement après, Dominique Versigny, là, la situation n'a fait qu'empirer.
Oui, de toute façon, c'est à la fois un élan qu'ont eu quasiment tous les candidats à la présidence de la République de dire « il y aura zéro SDF ». Les gens du terrain, les gens du social savent que c'est pas possible. Après, on peut pas critiquer une intention louable, mais la réalité est que il y a beaucoup de personnes à la rue, que l'État, sous tous les gouvernements, moi j'ai été au gouvernement en 2003, il y avait 60 000 places sur le territoire, et aujourd'hui il y a 146 000 places d'hébergement. On peut pas dire tout le monde a augmenté le nombre de places d'hébergement. Ben, parce que Paris, par exemple, la métropole, mais ça concerne Rennes, ça concerne Lille, ça concerne Nantes, sont des villes vers lesquelles les gens viennent, soit pour échapper, pour essayer de trouver du travail lorsqu'ils viennent de province, soit à travers les flux migratoires, parce que depuis 2015, il y a une crise extrêmement importante. Mais c'est vrai, on peut dire quand même au président de la République qu'en ce moment même, il y a 1500 personnes en famille avec environ 700 enfants qui dorment dans la rue, et ça, cet objectif-là de zéro famille à la rue, on peut le tenir. Et d'ailleurs, j'ai vu Julien de Normandie il y a quelques jours et on s'est dit que le zéro famille à la rue, on allait le tenir ensemble cet hiver.
Mais alors comment? En ouvrant des bâtiments qui sont vides,
Paris
en
met à
développant
disposition,
des places
voilà.
Donc, d'urgence.
L'État est chargé de mettre les personnes à l'abri, c'est-à-dire de financer les associations qui les accueillent. En gros, l'État finance des nuitées d'hébergement. L'État n'a pas de bâtiments ou peu, et donc les collectivités mettent à disposition des bâtiments. Donc là, nous proposons 1000 places. Nous avons trouvé des bâtiments municipaux. Nous les proposons à l'État et nous espérons que le plus vite possible, aucun enfant ne dormira à la rue, dans les rues de Paris. Mais ça vaut pour toutes les autres villes.
Absolument, ça vaut pour toutes les autres villes. On va voir d'ailleurs qu'il y a un problème par rapport au centre d'hébergement d'urgence et que l'État est en train d'essayer de savoir qui occupe les places dans ces centres d'hébergement. Ça, c'est un vaste sujet, puisque effectivement, normalement, ces centres d'accueil ne sont pas faits pour les migrants, puisque les migrants devraient être pris en charge par ailleurs. L'État demande effectivement un recensement, et même dans certaines villes, que les migrants ne soient pas accueillis. Je voudrais qu'on écoute ce reportage réalisé par Julie Pietri à Rennes.
Plusieurs associatifs racontent la même scène. Un demandeur d'asile appelle le 115, on lui demande de préciser sa situation administrative. Il explique, on lui répond qu'il n'y a pas de place.
C'est pas des témoignages bidons.
Hugues Feltès, coordinateur du collectif d'associations Alerte Bretagne, qui ont assisté à certains de ces appels.
Des familles, des enfants, des gens malades, on leur dit, ah ben non, il faut que vous passiez par le dispositif des demandeurs d'asile. Lequel dispositif dit, ben non, on n'a pas de place pour vous accueillir, on est complètement saturé. C'est une situation pas tenable.
La préfecture dément avoir ordonné au 115 de refuser tout demandeur d'asile, seulement de se concentrer sur les personnes en grande détresse. Pourtant, l'adjoint à la maire de Rennes, en charge de la solidarité et de la cohésion sociale, Frédéric Boursier, a constaté lui aussi un durcissement depuis cet été.
Début de l'été, on a un accueil de nuit, il n'était pas plein. Parce que justement, on s'est mis à refuser certaines catégories de la population. Et d'ailleurs, les structures associatives, elles ont décidé elles-mêmes qu'à partir de 18h, on n'appliquait plus cette consigne.
Le plus souvent, les consignes des préfectures sont orales, insiste la Fédération des acteurs sociaux, qui dénonce une atteinte au principe de l'accueil inconditionnel. Rare trace écrite, le préfet de la Marne, qui a expliqué dans un courrier avoir dû faire des choix devant la saturation des dispositifs, en l'occurrence, ne plus héberger les déboutés, sauf, je cite, en cas de vulnérabilité. Avéré.
Dominique Versigny, on en arrive à une situation ubuesque où c'est pratiquement une concurrence de la misère.
Oui, c'est très choquant et c'est très dur pour les personnes. Effectivement, le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri, il est censé amener à l'hébergement de droit commun pour les sans-abri, les SDF classiques, si je puis dire. Et puis par ailleurs, les gens qui arrivent pour demander refuge en France, ils sont censés être demandeurs d'asile et donc aller dans le dispositif demandeur d'asile. Donc d'un côté, le dispositif classique, il y a 146 000 places, et d'autre côté, le dispositif d'asile, il y a à peu près 95 000 places. Eh bien, malgré tout, tout est saturé. Et puis, donc il y a aussi nécessité, d'où les campements dans le nord de Paris, où il y a 3200 personnes, mais il y a des campements à Rennes, il y a des campements à Nantes, il y a des campements partout. C'est pour ça qu'avec Anne Hidalgo, le président de l'AMF, tous les maires de France, nous avons, François Baroin, donc président de l'AMF, nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur et Julien de Normandie, le ministre du Logement. Toute personne qui est à la rue est une personne sans abri. Alors après, il y a cette espèce de curiosité administrative qui dit que les uns doivent être dans le dispositif demande d'asile et les autres dans le dispositif d'hébergement.
En tout cas, on comprend que le cas des migrants est un cas particulier. Vous aviez d'ailleurs mis en place une structure à Paris il y a quelques années. Pourquoi ne pas recréer une structure comme celle-là ?
Alors lorsque les migrants sont arrivés en 2015, on a eu des grands campements dans le cœur de Paris. Et ça a été très compliqué parce que au niveau des gouvernements, tous ceux qui se succèdent, il y a une peur de favoriser l'appel d'air. Mais l'appel d'air, il n'y a pas une question d'appel d'air, les gens ils sont là, donc il faut les mettre à l'abri. Donc les gouvernements reculent le plus possible jusqu'au moment où il faut faire des mises à l'abri. Nous, face à ces campements géants, je m'étais rendue à Grande-Synthe, en Allemagne, à Berlin, partout, pour voir comment les Allemands... Parce que les Allemands, ils ont réussi à accueillir 1 million de personnes sans qu'il y ait de campement dans les rues. Donc, quand je suis revenue, j'ai proposé ça à Hidalgo et elle m'a dit « Ok, on crée le centre d'accueil humanitaire avec ou sans l'État. »
Ce qu'on appelait la bulle.
Voilà, il y avait une bulle et une halle derrière.
Et pourquoi est-ce que c'est plus possible de faire ça aujourd'hui ?
Alors, cette bulle, elle a été mise en place sur un terrain dont nous étions propriétaires et il était disponible pour 18 mois puisque nous étions engagés à construire le campus Condorcet pour les étudiants parce qu'il faut aussi s'occuper des étudiants dans une ville. Et on avait, alors à ce moment-là, c'était la période... Hollande-Cazeneuve, on avait trouvé un autre lieu. Et lorsque il y a eu changement de présidence, eh bien le ministre de l'Intérieur Collomb a refusé parce qu'il a considéré que notre centre d'accueil humanitaire provoquait de l'appel d'air et que donc il allait inventer un autre dispositif qui, autant vous le dire...
Donc ça veut dire que s'il y a autant de personnes à la rue à Paris aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque de collaboration, de concertation, de travail en commun avec entre la ville et le gouvernement ?
Mais c'est-à-dire, il y a des personnes qui arrivent et le centre humanitaire permettait de les accueillir et de les orienter au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a un autre dispositif avec plusieurs centres d'accueil créés par l'État, mais il n'accueille que des gens susceptibles d'être demandeurs d'asile. Or, pour que ça marche, il faut accueillir tout le monde, évaluer les situations et orienter. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'accueillir les 3500 personnes qui sont dans le nord de Paris et ensuite de mettre en place un dispositif pour accueillir les gens au jour le jour, car les gens arrivent.
C'est une réalité. On continuera évidemment, Dominique Versigny, à parler de tous ces sujets un petit peu plus tard dans cette émission. Mais on va passer à l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla. On commence par ces trains à l'arrêt vendredi dernier.
Là, il n'y a pas de préavis. On met les gens dans la merde.
Vous êtes furieux ?
Ben, je suis pas furieux. Si, oui, je suis furieux.
Ça ne m'énerve pas, Madeleine, j'explique.
Parce que là, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles.
Éloignez-vous de la bordure du quai.
Des trains à l'arrêt pendant plusieurs jours après un accident à un passage à niveau dans les Ardennes. Un accident qui a fait une dizaine de blessés, dont le conducteur du train. Nombre de cheminots ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Hors sujet, dit le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi.
C'est une grève. Ça n'est pas aujourd'hui un droit de retrait. Il n'y a aucun danger grave et imminent sur aucun train à la SNCF.
On est passé à côté d'une grosse catastrophe.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
C'est grâce à la conscience professionnelle d'un conducteur blessé qui a dû s'occuper d'abord d'arrêter le train qui risquait de venir en face, puis de s'occuper des passagers.
Car il n'y avait pas de contrôleur à bord de ce train. Et c'est là que le bât blesse, comme le rappelle ce retraité de la SNCF.
L'an dernier, il y a eu 4 mois de grève. C'était pour ces raisons-là. Ils ne voulaient plus mettre de contrôleur dans les trains. La colère, elle grandit. Et voilà le résultat.
Et cette question va bien au-delà de la SNCF pour l'eurodéputé vert Yannick Jadot.
Que ce soit la SNCF,
que ce soit sur l'ensemble des services publics où on n'a plus personne à qui parler, que ce soit sur la santé, sur l'éducation. À un moment donné, il va falloir se poser la question, quel type de service public on a envie d'être en sécurité ?
La sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et soyez rassurés, la France, c'est la sécurité. Maoré, na faranza.
Ça veut dire que la France et Mayotte jusqu'au bout.
Après Mayotte, la Réunion où la question sociale a repris le dessus, avec des manifestants maintenus à distance de la préfecture pour les raisons de sécurité, ou la colère des syndicalistes qui n'ont pu approcher le président.
C'est comme si on est en alerte 3, le mot cyclonique là. Habituellement, quand j'étais enfant, quand un président venait, on avait des drapeaux bleus, bas en rouge partout et on applaudissait. Aujourd'hui, on nous met dans une zone de non-guerre. C'est pas acceptable.
La déclaration la plus surprenante de la semaine à présent, c'était vendredi dernier au Conseil européen. Emmanuel Macron s'est opposé à l'ouverture de négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en ces termes.
Les mêmes qui nous disent « la main sur le cœur, il faut élargir », nous disent « je veux un budget à 1% ». Quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Promis, on vous la remet dans un instant. Mais d'abord des nouvelles du Nouveau Monde, quand Gérard Collomb nous explique comment il a décroché l'investiture pour la métropole de Lyon aux prochaines municipales. Il a tout simplement demandé au président.
Je lui ai posé la question franchement, en lui disant « écoute, tu me dis franchement, est-ce que tu veux que je sois candidat ou pas ?»
Et là, franchement, que croyez-vous que lui a répondu Emmanuel Macron ?
Et il m'a dit « oui, je veux que tu sois candidat ».
Adjugé vendu.
Quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Mardi, journée de mobilisation des agriculteurs dans toute la France. Ils se sentent mal aimés.
On nous traite de tous les noms. J'ai deux, trois copains qui se sont fait presque agresser dans les champs. Et vous vous dites, mais franchement, qu'est-ce que je fous là, quoi ?
Le déluge dans le sud de la France, de Montpellier à Toulouse. Bon nombre de trains sont à l'arrêt pour cause d'inondation. Pour certains voyageurs, la semaine se termine comme elle avait commencé.
Je suis le recordman mondial annulation des trains. Là, ça fait deux, mais j'en ai eu deux autres samedi aussi, parce que quand même. Et là, c'était les grèves, c'était différent. Mais bon, de toute façon, je suis solidaire de l'appli, je suis solidaire des grèves.
Et puis parce que décidément, on ne s'en lasse pas.
Quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Et encore merci à Céline. Il a une semaine en France, toujours en compagnie de Dominique Versini, maire adjointe chargée des solidarités à Paris. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a retenu particulièrement votre attention, Dominique Versini.
Ah, peut-être Mayotte quand même. Parce que lorsque j'étais défenseur des enfants, je suis allée à Mayotte pour voir la situation des enfants. Et tout à l'heure, là, juste avant de venir, j'étais dans une rencontre, parce que c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Le mois prochain.
Voilà. Et la défenseur des enfants, l'adjointe de Jacques Toubon, disait qu'elle a été terriblement frappée lors de sa dernière visite à Mayotte. C'était pas le cas lorsque moi j'avais été. Mais les enfants, il y a tellement pas assez de classes que les enfants vont à l'école, soit le matin, soit l'après-midi. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est terrible quand même. Et ce sont des enfants français. On est en France.
Et ça veut dire que cette convention donc n'est pas appliquée correctement sur le territoire français, puisqu'elle prévoit notamment l'enseignement pour tous les enfants.
Ah ben justement, on faisait le bilan de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose des droits pour tous les enfants du monde. Et en France, elle est appliquée pour tous les enfants. Mais pour les enfants dans un endroit comme Mayotte ou pour les enfants étrangers en France, effectivement, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à progresser. C'est le cas des mineurs isolés étrangers. Effectivement, les droits de l'enfant ne sont pas appliqués de la même façon partout.
Dominique Versini, vous avez été nommé défenseur des enfants, c'était en 2006. Oui. À l'époque, c'est Jacques Chirac qui vous avait nommé.
Oui.
Il se trouve que, quoi, 5 ans après, ce poste de défenseur des enfants a été happé, si je puis dire, par le poste global de défenseur des droits. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui avait eu cette idée. Du coup, vous avez eu peur à l'époque que le poste de défenseur des enfants soit un petit peu minimisé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré ? Est-ce que Jacques Toubon fait le job ? Est-ce qu'on peut dire
oui.
ça ?
Alors à l'époque, déjà, Nicolas Sarkozy, il a mis tout le monde dans une même institution parce qu'il en avait marre d'entendre. La défenseur des enfants lui expliquait ce qu'il fallait faire. Le président de la HALDE, Louis Schweizer, lui expliquait ce qu'il fallait faire sur les discriminations, etc. Donc il a fait une grande institution. Moi, je pensais qu'il fallait garder l'institution pour les enfants, pour que les enfants puissent joindre directement. Et je dois dire que Jacques Toubon, bah, que j'ai vu ce matin, parce qu'il était à cette réunion importante, fait vraiment le job. C'est extraordinaire comme il a pris en charge cette fonction et comme toute son expérience politique, a pris le meilleur de ce qu'est la politique pour porter la défense des enfants, la lutte contre les discriminations. Et ça, c'est vraiment... oui, c'est un grand défenseur des droits.
On a l'impression que ce poste de défenseur des droits, ou ça a pu être même avant poste de médiateur de la République, ça change les gens. Vous, en tant que défenseur des enfants, ça vous a changé, Dominique Versigny ?
Ah ben, ça m'a marqué considérablement. Parce que, voilà, on est confronté, on a parlé des féminicides.
Dans le journal, tout à l'heure.
Tout à l'heure dans le journal, et il y a des enfants, souvent au milieu. Et ce sont vraiment des drames terribles, et je les ai vécus comme défenseur des enfants, pour être, avoir été justement contactée pour intervenir dans ces situations où des enfants avaient été témoins de crimes commis par un parent sur l'autre parent, parfois par vengeance, parce qu'il y a des situations de divorce qui se déroulent extrêmement mal. Et effectivement, ça m'a marqué considérablement, ça m'a marqué et ça m'inspire en tant que élue chargée de la protection de l'enfance, parce que à Paris, 40% des enfants qui nous sont confiés au titre de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, sont des mineurs isolés étrangers. Et tout ce que j'ai travaillé comme défenseur des enfants m'inspire et m'a amené à surtout à obtenir que ces enfants-là soient traités comme les autres enfants français qui nous sont confiés, alors qu'aujourd'hui on assiste quand même à une dérive dans les textes de loi et les décrets qui amènent à les traiter d'abord comme des étrangers et pas comme des enfants. Et ça, quand vous avez été défenseur des enfants, et j'étais heureuse tout à l'heure parce que Jacques Toubon a dit que la politique qu'on mène maintenant, parce qu'il nous a beaucoup aidé à faire, en faisant beaucoup de recommandations, se rapproche de ce que l'on peut faire de mieux dans une collectivité.
Dominique Versigny, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure concernant le petit résumé de l'actualité de la semaine, on a entendu Gérard Collomb. Tout ça pour vous dire que donc il y a, on en parlait aussi dans le journal tout à l'heure, il y a les municipales dans 5 mois. Vous faites partie de cette majorité municipale depuis 2014. Vous avez été conseillère de Paris avant pour d'autres.
Non, jamais.
Vous n'aviez pas été. Vous aviez été conseillère régionale alors.
Absolument.
Régionale. Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas si Anne Hidalgo va se représenter. Vous avez des informations?
Bah pour l'instant, Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, donc elle travaille, nous travaillons. Mais vous savez qu'il y a tout un mouvement de la société civile avec des élus comme moi qui ont développé un mouvement qui s'appelle Paris en commun, où nous travaillons, nous réfléchissons sur Paris.
En fait, c'est la future liste qui sera menée par Anne Hidalgo.
Et nous espérons bien qu'Anne Hidalgo en sera à la tête de liste, évidemment. Mais pour l'instant, nous travaillons. Et c'est vrai que la différence entre nous, élus, et des candidats qui sont intéressés à conquérir Paris, c'est que nous sommes en fonction et que nous devons aux Parisiens d'être auprès d'eux le plus tard possible. Donc nous travaillons.
Oui, mais enfin, la dernière fois, par exemple, Anne Hidalgo avait présenté ses listes, je pense, à l'automne 2013. On y est pratiquement. Anne Hidalgo faisait déjà partie de la majorité municipale. Quand est-ce que vous allez vous déclarer tous ?
Ah ben, c'est elle hein, qui se déclarera, la date qu'elle choisira. Et c'est justement son privilège de pouvoir le décider au moment qu'elle le décidera et d'être le plus longtemps possible parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et que la bataille va être rude.
Ah ben oui, comme toute bataille.
La République En Marche a bien l'intention de décrocher la mairie de Paris.
Ah ben, de toute façon, vouloir conquérir une ville comme Paris, c'est pas un défi simple. Nous avons un bilan, nous avons un travail, nous avons un sérieux. Et beaucoup de gens ont envie de rejoindre tous ces projets. On a beaucoup de reconnaissance sur beaucoup de sujets. Il y a des désaccords, il y a des insatisfactions sur d'autres, c'est normal. Et on verra au bout du compte qui les Parisiens ont envie d'avoir à leur tête, quelle ville ils ont envie d'avoir, quel projet.
En tout cas, Dominique Versigny, vous allez continuer quoi qu'il arrive, vous allez vous représenter vous-même.
En tout cas.
Et vous allez continuer avec cette majorité.
Ah, de toute façon, je fais partie de cette majorité, je fais partie de l'exécutif d'Anne Hidalgo et je m'y sens bien. Je dois vous dire, vous avouer que dans cette majorité, cet exécutif de gauche, c'est la première fois dans toute ma vie que sur tous mes engagements qui ont toujours été les mêmes, je n'ai pas à expliquer pourquoi je m'occupe des pauvres, pourquoi je m'occupe des sans-abri, pourquoi ça
prend
mes jours et mes nuits.
Quand vous étiez dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, vous étiez...
J'étais très respectée parce que Jacques Chirac, avec qui on avait créé le Samu social et qui nous avait soutenus, m'a toujours soutenue. Mais j'étais toujours un peu quelqu'un d'un peu étrange, quelqu'un d'un peu à part. À l'époque, j'étais encore très jeune, beaucoup plus jeune en tout cas, et je venais vraiment de la société civile et j'étais que dans ma passion, que dans mon engagement.
Et il paraît que Jacques Chirac vous disait vous êtes de gauche. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez. Alors un jour, Jacques Chirac m'a dit en me regardant comme ça, vous Dominique, vous êtes de gauche. Alors je lui dis ah bah ça, Monsieur le Président, ça saurait parce qu'avec tout ce que j'avale là comme. Croyez-moi, Dominique, je m'y connais. Vous êtes de gauche.
C'était bien vu, puisque finalement, vous avez rejoint la gauche après avoir soutenu François Bayrou.
J'ai pas rejoint la gauche. J'ai rejoint vraiment
une majorité.
Une femme, une personnalité. J'ai pas rejoint la gauche. J'ai rejoint une femme parce que son histoire, son parcours de petite fille de républicain espagnol, son parcours de fille d'ouvrier m'a touchée et m'a donné envie de la rejoindre comme j'avais eu envie de rejoindre Jacques Chirac alors que j'avais jamais touché à la politique ni de près ni de loin.
Alors on va essayer de comprendre pourquoi, on va pour ça évoquer votre parcours dans un instant, Dominique Versigny, votre histoire. Le temps d'écouter Swad Massy.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك قال يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Raoui, Swad Massy, un disque sélectionné pour vous par Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Dominique Versigny. Ah, ce disque, c'était un petit peu pour vous, Dominique Versigny. Et vous,
merci.
Je me suis sentie émue en écoutant Swad Massy.
Très émue, parce que...
Déjà, c'est une langue que vous parlez.
C'est une langue que j'ai beaucoup parlé. Je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc, dans une famille corse, mais ma mère a grandi et est née dans la Médina de Rabat. Et ce sont des sonorités qui me touchent vraiment profondément. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans, donc c'est une grande partie de la vie qui marque pour toujours. Et ces chants, cette langueur, cette douceur, on sent... Pour moi, c'est très important. Ça me rappelle beaucoup de choses. Tout d'un coup, vous m'avez fait replonger des années en arrière.
Comme quoi, avec la musique, on fait des tas de choses. Un mot de votre mère, Dominique Versini, parce que c'est un personnage essentiel. D'abord, vous portez son nom.
Hein. Oui.
C'est pas aussi fréquent que ça. Et si vous portez son nom, c'est que ça s'explique. Puisque quand vous êtes née, elle n'était pas mariée. Elle était enceinte à 35 ans d'un jeune homme qui avait la moitié de son âge. Ça, c'était pas banal non plus.
Ah, surtout au Maroc, et dans une famille corse. Ma mère s'appelait Xavier Versini. Et effectivement...
Et cette situation lui a valu d'être rejetée ?
Oui, totalement. Évidemment, quand on était fille-mère à l'époque, on n'était pas grand-chose. Mais elle a choisi à 35 ans, a trouvé que sa vie n'avait pas vraiment de sens. Et quand ce jeune homme de 18 ans tombait éperdument amoureux d'elle, mais qui ne pouvait pas tellement aller plus loin, parce qu'à 18 ans, on ne pouvait pas faire grand-chose en 1954... Elle a décidé de garder cet enfant malgré toute la pression familiale. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'avait jamais travaillé comme les femmes de cette époque. Donc elle a appris la dactylo et elle m'a élevée modestement, avec beaucoup d'amour, avec une seule volonté, une seule idée, une seule obsession, c'est que je fasse des études pour pouvoir être autonome, indépendante, une femme indépendante et autonome. Et en souvenir d'elle, pour elle, j'ai toujours gardé... son nom, quel qu'ait été ma vie sentimentale ou maritale par ailleurs, parce que cette femme, Xavier Versini, a fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire qu'elle m'a légué toute la force qu'elle avait, mais elle était toute pauvre, toute simple, toute modeste. Elle disait « on est pauvre » et quand j'étais enfant, ça m'énervait parce que vous n'aimez pas que votre mère vous dise que vous êtes pauvre, parce que les enfants pauvres, et là ATD Quart-Monde le dit bien mieux que moi et à grande échelle, les enfants pauvres ont honte d'être pauvres. La pauvreté crée une honte et fait qu'on ne se sent pas comme les autres enfants. Et par exemple, dans une ville comme Paris, un enfant sur cinq, mais comme au niveau de la France, vit dans une famille, souvent une maman seule,
dont sous le seuil de pauvreté.
Dont le revenu est inférieur au seuil minimum de pauvreté. Et pour moi, la pauvreté, c'est maman seule. La pauvreté en général est quelque chose d'insupportable. J'ai eu cette chance de grandir au Maroc et de faire des études dans les écoles de la Mission culturelle française. Mais on n'a pas la chance, quand on est pauvre, quand on est revenu en France, on habitait Gennevilliers. On n'a d'abord pas eu de logement pendant un an.
Parce que votre maman, il faut le dire, elle vous a suivi quand vous êtes venu faire vos études de droit, oui. Sciences Po ici à Paris. Vous avez donc vécu en HLM.
On a vécu à Gennevilliers.
À Gennevilliers.
Ma mère m'aimait tellement qu'elle n'imaginait pas pouvoir me laisser partir comme ça vers cette France qu'on ne connaissait pas, mais qu'on aimait. Et on est arrivé et on a eu un HLM à Gennevilliers après avoir attendu un an. Et elle était heureuse d'avoir ce lieu-là. Et je dois dire que ça a été pour moi une leçon de vie et que c'est la force de mon engagement, je la tire là-dedans. Parce que j'ai beau être privilégiée, avoir fait plein de choses, avoir été au gouvernement, il m'est insupportable de voir une femme, un enfant souffrir et manquer. Et pour moi, c'est un combat. Et quand je vous ai dit, dans cette majorité de gauche, je me sens bien parce que jamais on m'a reproché ça, jamais on m'a trouvé bizarre. Et je trouve que c'est bien. Et Anne Hidalgo a connu ce parcours aussi de pauvreté.
Un mot, Dominique Versini, de votre parcours professionnel, oui. Avant de vous engager en politique. Il y a eu l'industrie pharmaceutique, oui. Dans laquelle vous avez travaillé, notamment chez Servier.
Oui.
Vous aviez un grand poste. Et puis finalement, un beau jour, vous avez tout laissé tomber pour vous occuper du SAMU social.
Droit, Sciences Po, faire plaisir à ma mère, lui rendre honneur, c'était aller dans les grandes entreprises. À l'époque, c'était un honneur d'être chez Servier dans ces années-là, il y a 25 ans. Et ensuite, un jour, je rencontre Xavier Emmanuelli. Ça, c'est le réseau Corse. Et il me dit, voilà, j'ai l'idée de créer un SAMU social. Est-ce que tu peux m'aider, etc. Et c'est vrai que bon, Xavier Emmanuelli, c'est un personnage exceptionnel. Il est porteur de quelque chose. Vous l'avez d'ailleurs reçu.
On l'a reçu ici, voilà. Dans cette émission. Oui.
Et on a rencontré Jacques Chirac. Et Jacques Chirac a topé, il a dit oui, on va créer le SAMU social. Et c'était... Alors après, moi, j'ai hésité, et Chirac et Emmanueli m'ont dit, Dominique, il faut que vous preniez la direction du SAMU social. J'ai dit, mais moi, je travaille quand même chez Servier, je gagne bien ma vie. Et Xavier Emmanueli a eu cette phrase qui tue, il m'a dit, moi, tu ne vas pas finir ta vie en vieille directrice de la communication, ce qui était mon poste, moi, je te propose une aventure extraordinaire.
Et voilà, c'est comment l'aventure a débuté. Dans cette émission, Dominique Versini, il y a toujours le vendredi soir avant 19h, une rubrique positive. Ce sont les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, une initiative qui va forcément vous intéresser, Dominique Versini. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, un concept de colocation inhabituel. Il vient d'ailleurs d'être primé par la société Saint-Vincent de Paul pour son côté innovant, humain et solidaire. Son nom, Caracol, escargot en espagnol.
Écoutez, quand vous cherchez une colocation, à la limite, vous choisissez le secteur, proche de la fac ou du boulot. Mais pour le reste, sur qui on tombe, c'est la loterie. Avec Caracol, on choisit de coloquer avec l'autre bout du monde.
C'est-à-dire ?
Moite-moite, jeunes Français fauchés et jeunes migrants qui, par définition, n'ont pas de travail, pas de salaire, pas de caution et personne, évidemment, pour se porter garant.
Alors quel propriétaire va accepter ça sans garantie ?
Mais justement, c'est ça la bonne idée. Simon Guibert, le fondateur de Caracol, n'a absolument rien inventé. Il a connu ça en Suisse. Caracol ne démarche que les propriétaires dont le logement est vacant et voué à terme à la démolition.
Alors vous vous êtes rendue, Sandrine, dans la toute première colocation ouverte en février au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.
Qui aurait imaginé qu'il puisse s'échapper un air de piano de cette maison vouée à la démolition ? Lui, celui qui taquine les touches, Simon Guibert, à l'origine de Caracol.
En fait, on est où là ?
Et bah ici, en fait, on est dans un ancien garage. C'est pour ça qu'il y a 4 mètres sous plafond, des verrières en haut. À la base, il y avait absolument rien quand on est arrivé. En fait, on est sur le tracé de la ligne 15 du nouveau métro. Et en fait, ce lieu est resté vide parce qu'il va être démoli.
Grand Paris.
Exactement, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut l'occuper avant qu'il soit détruit.
150 mètres carrés qui ne servaient plus à rien, ce serait dommage. Allez, on monte au premier étage.
Donc là, il y a la chambre de Virginie, là, il y a la chambre de Roustam, la chambre de Mohamed, et là, c'est ma chambre juste ici. On ne paye pas de loyer. En revanche, on entretient le bâtiment. On paye 190 euros par mois, toutes charges comprises, internet, l'assurance, et on peut occuper le lieu gracieusement à disposition par la Société du Grand Paris.
Quelle est la différence d'une coloc ordinaire et une coloc avec des réfugiés ?
C'est la chance d'habiter avec des personnes qui viennent d'un autre pays, qui ont une vision du monde qui peut être complètement différente, des histoires d'enfance, des parcours de personnes. Moi, je changerais de coloc pour rien au monde. On se loge pour pratiquement rien et on en retire une richesse énorme.
Pour Virginie, c'est pareil, elle est comédienne, sa chambre est au bout de la passerelle.
C'est là.
C'est votre chambre ?
Ouais.
C'est pas super rangé. Hein.
Et pourtant, j'ai un peu rangé.
Qu'est-ce qui vous plaît ici par rapport à une coloc, on va dire, traditionnelle ?
Clairement, je vis avec 4 personnes, je pense, que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie de tous les jours. Sur 5, il y a quand même 3 personnes qui sont réfugiées. Moi, je suis blanche française. Ça a été une ouverture de malade, quoi. Enfin, toutes les colocs que j'ai faites qui étaient des colocs géniales parce que c'était avec des amis. C'était des gens plus ou moins de mon milieu. Enfin, ça reste des Français. Et là, du coup, c'est hyper enrichissant, quoi. Ça m'a ouvert l'esprit de ouf, en fait.
Ici, c'est pas qu'un toit.
Ah non, absolument pas.
La preuve. Ce qui se passe là, dans la cuisine.
C'est quoi ça, Yacine ?
Un plat somalien.
Yacine, le premier migrant arrivé ici.
Il s'appelle Sokar.
Sokar.
Oui, c'est un plat très populaire en Somalie. J'ai envie de présenter notre cuisine, notre culture.
C'est important pour vous de parler de votre pays.
Oui, c'est important.
Qu'est-ce qui vous apporte les autres ? Simon, qui est nantais, Virginie, parisienne. Vous pourriez faire une coloc avec des Somaliens.
Ça me plaît beaucoup. Par exemple, Simon et Virginie, ça toujours me permet de comprendre mieux la culture française, de pratiquer la langue française, comprendre le cuisine français. Je n'ai jamais mangé fromage. Ici, je mange fromage toujours, en fait. Si j'habite toujours avec quelqu'un somalien, ça ne me permet pas de progresser. Je suis arrivé en France en tant que demandeur d'asile. J'ai passé mon premier mois dans la rue. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas très bien français. Et aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès. C'est cool.
Parce que quand on arrive comme vous de Somalie, trouver un logement, c'est pas simple.
Quand je voulais louer une chambre, ils m'ont demandé un quotient de 2 mois, 3 dernières fiches de paye, un contrat CDI. Moi, j'ai rien en fait. J'ai pas mes parents ou quelqu'un que je suis arrivé ici sans connaître personne. Aujourd'hui, j'ai pas un travail. Caracol ici, cette colocation, personne ne m'a demandé un quotient. Personne ne m'a demandé un contrat, personne ne m'a demandé une garantie, en fait. Pour moi, c'est parfait. Et le loyer aussi.
Si vous aviez un mot, Yacine, Caracol, c'est quoi ?
Dream house. La maison de rêve.
La maison de rêve.
Ouais, la maison de rêve.
Et Roustam, qui met la table ? Vous venez d'où, Roustam ?
Je suis afghan.
Afghan ?
Oui, afghan. J'arrive en France en 2015. J'habite à Route.
Dans la rue ?
Oui, gare de l'Est. Après, c'est 2 mois foyer d'urgence.
Pas de logement, quoi.
Non, c'est pas logement, c'est foyer.
Et aujourd'hui, cette colocation.
Caracol, ici, pour moi, je me sens comme à la maison.
Les amis, j'avais oublié le dessert et je tiens absolument à ce que chacun en prenne une petite part.
Ça a l'air trop bien.
Et encore merci à Sandrine Houdin pour ce reportage. Je précise que Caracol existe déjà à Toulouse et La Roche-sur-Yon et que c'est en projet à Marseille et même à Paris, en partenariat avec Habitat et Humanisme, Dominique Versini.
Ah ben, bienvenue, hein, c'est formidable. J'ai aimé ce reportage et j'aime cette jeunesse qui est accueillante. Les réfugiés ont déclenché ça. Les Parisiens sont venus, sont descendus dans les rues, ont accueilli chez eux énormément de familles, accueillent des réfugiés. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont aidé les jeunes étudiants. Il y a énormément de solidarité. Les réfugiés, vraiment, ont déclenché ces mouvements. Et Caracol, je trouve, est un symbole magnifique d'une coloc étudiant de gens qui ne seraient pas rencontrés dans la vie normale. Et c'est ça l'histoire du monde, c'est ça qu'il faut que les gens...
Parce que la solidarité, c'est pas qu'une histoire d'institutionnel, c'est ça.
C'est ça. Et les habitants, les citoyens, ont montré... que ça les intéresse et que malgré tous les obstacles qui peuvent être mis sur leur chemin, comme le soi-disant délit de solidarité, qui n'en est plus un, grâce au Conseil constitutionnel, les Français, les citoyens et les jeunes sont au rendez-vous.
Merci beaucoup Dominique Versini. Cette émission se termine. Merci d'être venu nous voir ce soir et merci pour tout ce dont on a pu parler. Dans quelques instants, le journal de Pierre Veil et puis à 19h20, le téléphone sonne qui sera consacré à la privatisation de la Française des Jeux. Appelez-nous 01 45 24 7000.